Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
C'est toujours la mi-temps à Louis II, 0-0. C'est la 24e journée de Ligue 1, 0-0 entre Monaco et Lorient. Retour à Monaco dans quelques instants avec Aurélien, avec Manu. Une journée de Ligue 1 qui se poursuivra cet après-midi. Vous le savez, à 15h, dans un peu plus d'une heure, le coup d'envoi de 4 matchs. Ce sera l'Intégral Foot Ligue 1 autour de Benoît Boutron, Angers-Strasbourg, Brest 3, Clermont-Saint-Etienne et Nantes-Reims. Ces 4 rencontres à vivre en direct sur RMC. 17h, Lens-Bordeaux. Et à 20h45, en clôture, Metz-Marseille. Vous faisiez quoi vers midi 19 ce midi? Nous, on a fait ça sur RMC.
Qui va lâcher la première balle? C'est Quentin et elle est bonne. La première, la deuxième, c'est bon. 2 sur 2. La tip-off n'a pas encore tiré. 3 sur 3 pour Quentin. 1 sur 1 pour la tip-off. Allez, la dernière, le plat. Quentin Fillon-Maillet file vers le titre olympique. Quentin Fillon-Maillet est champion olympique de la poursuite. Il entre dans l'histoire. Premier sportif français à décrocher 4 médailles dans des Jeux olympiques d'hiver. Il se frappe les pectoraux et il montre le sourire et à la caméra. Il est exténué, il n'en revient pas. Il nous dit quelques mots, il dit quelques mots à la caméra et il va savourer ce titre olympique monstrueux. Quentin Fillon-Maillet.
RMC Pékin 2022.
La 10e médaille de la délégation tricolore, la 4e pour le seul Quentin Fillon-Maillet, son 2e titre après l'individuel. Il a donc remporté ce midi la poursuite en biathlon. Quentin Fillon-Maillet, enfant de Saint-Laurent en Grand-Vaux. C'est dans le Jura où Léna Marjac est notre envoyée spéciale ce week-end. Léna qui est sur place, elle était tout à l'heure. Léna avec un homme multicasquette, mais notamment le directeur de l'école de ski. Tu es, je crois, Léna, avec le papa de Quentin Fillon-Maillet.
Oui, je suis avec Laurent, le papa de Quentin. Alors, vous, à Paris et sur RMC, vous avez vibré avec les commentaires de Julien. Ben, nous, ici, on a vibré avec cette ambiance incroyable qu'il y avait dans la salle de Saint-Laurent en Grand-Vaux. C'est le village de Quentin. Laurent, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez ce qu'est en train de faire votre fils?
Pas vraiment, non. C'est vrai qu'il nous fait 4 médailles en 4 courses, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Oui, c'est vraiment. On a vraiment du mal à réaliser. Je pense que même toutes les personnes sont là, si on dit, un petit gars du Jura comme ça, du grand mot, gagner 4 médailles aux Jeux Olympiques, non, c'est pas possible. Mais il l'a fait. Il est fabuleux. Je pense que à côté de moi, il y a un de ses meilleurs copains qui en parlera peut-être mieux que moi parce que. Il le côtoie souvent. Guillaume, chaque fois qu'il y a une bonne course, c'est le premier à être appelé par Quentin. Quentin l'appelle, lui dit ouais, j'ai fait une bonne course, si ça. Et ses parents, c'est vraiment, ils les appellent que si. Beaucoup, beaucoup plus tard. Voilà.
Justement, Guillaume est juste là, on va lui poser une petite question. Guillaume, il vous a impressionné aujourd'hui, votre meilleur ami, est-ce que vous l'avez aussi peut-être au téléphone?
Non, c'est la première fois que je ne l'ai pas au téléphone après la course. Là. D'ailleurs, ça fait chaque fois qu'il est champion olympique, donc ça fait déjà 2 fois qu'il ne m'appelle pas. J'espère que je n'aurai pas besoin d'attendre demain là, pour ce coup. Mais oui, il nous impressionne et honnêtement, je pense qu'à aucun moment on aurait imaginé ça. Et aujourd'hui, il a eu un mental mais d'acier. Franchement, nous, il nous impressionne tous les jours et puis là, il réalise quelque chose de grand. C'est le plus grand de tous les temps, de toute façon.
Et une dernière question avec Laurent quand même. 4 médailles, il rentre dans l'histoire. Il y a encore 2 courses, ça présage encore de belles choses pour lui et puis pour vous en tant que papa, beaucoup de fierté.
Oui, je pense. Il y a le relais. Dans le relais, j'espère que Quentin sera à la hauteur, ainsi que ses coéquipiers. Hein, donc, ils sont tous, sans exception, de très bons biathlètes. Donc, et en plus de bons copains, il y a une super ambiance dans cette équipe de France. Donc, je pense qu'il peut faire une médaille, en espérant que ce soit l'or aussi. Et après, pour la mass start, Quentin a toutes ses chances. C'est un départ groupé, un bon tir, de bons skis. Il peut jouer encore une médaille, un podium. On va pas encore lui demander une médaille d'or, mais le podium au minimum. Voilà.
Mais l'heure pour l'instant est de profiter. Ils ont tous les deux un verre à la main. On profite, mais avec modération, bien sûr.
Modération. Santé, l'eau.
Allez, santé. Et puis voilà, c'est la fête ici à Saint-Laurent en Grand-Vaux. Et tout le monde va profiter avant les prochaines courses de Quentin. Et tout le monde l'espère ici. Il y a la copine également de Quentin qui est juste en face de moi. Tout le monde espère évidemment qu'il va ramener encore de belles médailles.
Est-ce que la copine a un verre à la main ou elle te semble disponible pour te dire quelques mots, Léna?
Alors, j'ai essayé avant déjà en interview. Elle a un verre à la main, oui, mais elle voulait pas venir en interview. Oh, oui, elle est un peu timide.
Raconte-nous un petit peu, là, décris-nous justement ce qui se passe. T'es où ? Il y a encore beaucoup de monde parce que la course est finie depuis presque 2 heures maintenant.
Oui, ça s'est bien vidé. Alors là, c'est vraiment les proches de Quentin qui sont là, les amis proches, la famille, un fan club aussi, un collectif de supporters du biathlon qui suivent Quentin depuis qu'il est tout jeune, mais les biathlètes en général également qui sont là depuis le début du week-end. Et donc là, on est juste devant donc cette salle Omnisport de Saint-Laurent-en-Grandvaux où une buvette éphémère a été installée. Donc il y en a encore quelques-uns qui sont accoudés au comptoir et les autres sont au soleil. Beaucoup sont au soleil parce que je peux vous dire qu'il fait pas chaud ici. Il y a un petit vent frais et donc tout le monde se réchauffe aussi avec un verre à la main.
Très bien. Tout le monde, Léna, ou...
Alors, pas les enfants, mais beaucoup de personnes, quand même, eh bien, ont un verre à la main.
Les journalistes. Oui, je pensais aux journalistes.
Eh ben, écoute, les journalistes, il ne reste plus que moi, et tout le monde est parti dès que la course est terminée. Donc, moi, je n'ai pas de verre à la main. Voilà, je ne vous le cache pas.
Voilà. L'avantage de faire de la radio, c'est qu'on ne peut pas vérifier. Merci, Léna.
C'est vrai.
On te retrouve un peu plus tard, évidemment. Merci de nous avoir fait vivre cette course et ces réactions maintenant du clan Fillon-Maillet après la 4e médaille pour Quentin Fillon-Maillet sur ces Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. À plus tard, Léna. 13h59, c'est l'intégrale foot sur RMC. Manu Amoros est toujours là. Ça fait plaisir aussi, hein, Manu, après des grandes victoires, de pouvoir fêter.
Bien sûr. Et puis la fierté aussi des parents d'avoir un champion comme ça qui arrive à gagner et à amener de la joie de partout, quoi.
La fierté du papa, mais lui aussi, il fait un peu de tir. Il a mis un petit tir à son fils. Et oui, il appelle quand même le copain avant, tu vois.
C'est comme ça. Mais t'en fais pas. Je pense qu'il doit l'appeler et puis ils doivent s'encourager. Et puis c'est bien.
Et oui, Quentin Fillon-Maillet, exceptionnel, historique, hein, de toute façon, parce que jamais aucun athlète français n'avait décroché 4 médailles sur une seule et même édition de Jeux Olympiques. C'était 3 pour Fourcade, 3 pour Anaïs Bescon également il y a 4 ans à Pyeongchang, 3 pour Jean-Claude Killy en 68, 3 pour Henri Aurillet, on s'en rappelait un peu moins, mais c'était en 1948 en ski alpin. C'est désormais 4 pour Quentin Fillon-Maillet. Il est 14h, vous êtes sur RMC, nous sommes dimanche le 13 février, les gars, pensez à demain. Et on va retourner à Louis II, Aurélien Tiercin, dans quelques instants, le coup d'envoi de la deuxième période de Monaco-Lorient. C'est la 24e journée de Ligue 1. Est-ce que
les Monégasques reviennent sur la pelouse. Les Lorientais arrivent également à leur tour, tout de bleu vêtu d'ailleurs, les Merlus habitués au orange et au noir.
Ouais,
le coup du 13 février, ça m'a mis un coup derrière la casquette là, parce qu'effectivement, j'y pensais pas, Thibaut.
Heureusement qu'on est là, hein, pour rappeler parce qu'on est le 13.
Tu pensais pas, Aurélien, quand même
14 février demain.
Ah, tu sais, j'ai la tête dans le guidon. Toulon hier, Monaco aujourd'hui. C'est l'excuse. Les Monégasques sont revenus sur la pelouse. Lorient aussi. Et le coup d'envoi dans quelques secondes, minutes. Le petit échauffement, effectivement, du 11 Lorienté. Pas de changement, a priori. Les remplaçants monégasques avec Jelson Martins, Golovin, Ruben Aguilar notamment, se sont échauffés. Le 11 semble également ne pas bouger côté AS Monaco.
Manu, qu'est-ce qu'on fait chez les Amoros le 14 février, tiens, en attendant que ça reparte, là, demain soir?
Demain, on a pas mal de choses à faire. Tu sais que je m'occupe d'une association qui s'appelle, que je travaille avec une association qui s'appelle le S13. Et demain, on a rendez-vous avec des gens pour créer le foot en marchant.
D'accord.
Avec les seniors.
Bon, ça c'est la journée. Il reste la soirée après.
Après il y a la soirée. On boira un petit coup. On fera pas comme Léna. On aura le verre à la main.
Oui, on n'est pas obligé de la croire non plus. 14h02. Vous êtes sur RMC. C'est encore une belle journée de direct aujourd'hui, ce week-end, entre les JO, entre la Ligue 1, entre le rugby également, hein, au lendemain de la victoire des Bleus contre l'Irlande. C'est l'Angleterre qui va tenter de remporter enfin un match dans ce tournoi destination. Les Anglais vont en Italie, là où tout le monde gagne un match normalement. Deuxième journée. C'est à partir de 16h, deuxième journée de ce tournoi destination dont la France est en tête. Coup d'envoi de la deuxième période, Aurélien, Monaco-Lorient.
Reparti avec Wissam Ben Yedder vers l'arrière et Guillermo Maripane notamment. Je précise vers l'arrière puisqu'en première mi-temps, Sambou Soumano, le jeune attaquant de Lorient, avait fait un dégagement à la rugbyman et avait complètement balancé vers la touche. Les Monégasques à l'attaque avec Caio Henrique sur le côté gauche vers Kevin Folland, le centre instantané de l'international Folland, mais contré par les Lorientais. Le ballon toujours aux alentours de la surface de réparation. Maripane pour Dizassi.
C'est quelque chose qu'on voyait un peu plus, Manu, il y a quelques années. Les coups d'envoi, on allait chercher une touche. Je me souviens, c'est Giroud qui faisait ça souvent avec son Auxerre là, dans les années 90. Ouais. Quand Auxerre engageait, souvent ils envoyaient le ballon pour aller trouver une touche pas loin
pour faire monter le bloc. Ouais, c'est ça, pour faire monter le bloc et faire pression sur l'équipe adverse. Mais bon, c'est vrai qu'on le voit moins, mais bon, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il vaut mieux essayer de garder le ballon et de construire au lieu de jeter un grand ballon.
Et puis on avait en Ligue 1, on avait aussi Maxwell Cornet qui le faisait pas mal, mais c'était pas sur des coups d'envoi. Enfin bref, c'est notre histoire.
C'est scandaleux.
Monaco-Lorient, Aurélien.
0-0, 46 minutes de jeu. D'ailleurs, les Lorientais, ils avaient eu raison en première période de balancer loin devant, puisque c'est la seule fois qu'ils sont allés quasiment aux alentours de la surface d'Alexander Nubel, puisque c'est un match dominé par l'AS Monaco. Allez, on va dire 2-3 situations pas réellement dangereuses pour Mathieu Dreyer, qui a passé une première période assez tranquille. Deux frappes cadrées directement dans les gants du gardien lorientais. Justement, les hommes de Pélissier à l'attaque avec Léo Petro sur le côté gauche vers Vincent Le Goff, le capitaine, avec Armand Lorienté complètement sur la ligne de touche gauche, mais on reste au niveau du rond central et on n'arrive pas à trouver d'ouverture. Banqueino envers Thomas Monconduit, l'ancien Amiénois, qui n'arrive pas à trouver au Boulogne Mendes le bon retour de Sofiane Diop. Les Monégasques récupèrent le ballon dans le rond central avec Tchouaméni, le ballon contré. Beaucoup de densité au milieu de terrain avec Jean Lucas qui récupère le ballon, qui lui se projette, la passe vers Wissam Ben Yedder, le bon contrôle de l'international français et le tacle de Léo Petro. Bonne défense du latéral gauche de métier, je le disais Manu, recentré dans l'axe. Pour l'instant il s'en sort vraiment pas mal.
Oui, il se sort même très 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 bien, parce que là on le voit bien, il se laisse pas prendre et il amène le Ben Yedder sur son pied droit, alors qu'on sait que Ben Yedder est plutôt gaucher et il pouvait faire un crochet sur son pied gauche et éventuellement envelopper le ballon pour trouver la lucarne de l'autre côté. Et là il s'est pas laissé prendre et il a bien anticipé sur ce côté, donc c'est propre et il y a peut-être un peu la relance qui devrait essayer de s'appliquer davantage, mais au niveau défensivement dans l'agressivité c'est juste, c'est bien.
Et le corner de Caio Henrique de la droite vers la gauche, dégagé par une tête lorientaise et même une petite faute de l'AS Monaco. Mathieu Dreyer, le portier lorientais, va pouvoir dégager son équipe. 48 minutes de jeu, toujours 0-0 entre l'AS Monaco et le FC Lorient.
Manu, ton analyse là, de ces 5 premières périodes, est-ce que sens les Monégasques revenir avec d'autres intentions ou on repart sur un coup de
la J'ai l'impression qu'on va repartir comme sur la première période, c'est-à-dire maîtrise totale avec le ballon des Monégasques, sans se créer beaucoup d'occasions, juste des situations. Et il va falloir peut-être changer de rythme et aller provoquer davantage cette défense lorientaise, parce que il y a pas grand-chose, quoi. C'est ce match-là va te permettre, si tu le gagnes, de récupérer la 4e place. Donc montrer autre chose et aller vers l'avant.
Et Philippe Clément qui essaie d'applaudir, d'encourager ses joueurs. Encore une transversale de la gauche vers la droite ratée par Guillermo Maripane. Il essayait d'aller chercher Vanderson sur l'aile droite. C'est parti directement en touche. Il y a trop d'imprécisions, pas assez d'appels tranchants, notamment Ben Yedder. Là, la touche est manquée par Djibril Sidibé. Deuxième chance pour le latéral monégasque. Mais je le disais, il y a quand même des cartouches sur le banc des remplaçants. Il y a Alexander Golovin, le jeune Magnès Akliouche, il y a Youssouf Fofana, Ismaël Jacobs, Jelson Martins, Ruben Aguilar. Il y a quand même des solutions, notamment pour dynamiter les côtés. Devant, par contre, Ben Yedder et Volante vont devoir se montrer un petit peu plus présents. 0-0, la 50e minute ici à Louis II.
Il est 14h06, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral foot. Manu Amoros, notre membre de la Dream Team, est là comme tous les dimanches après-midi pour vivre ensemble la Ligue 1 dans un peu moins d'une heure. Le coup d'envoi de 4 autres matchs de cette 24e journée qui seront à vivre sur RMC et on fera d'ailleurs un tour des stades. Mais en attendant, on reste sur nos directs et Monaco qui galère toujours contre Lorient, Aurélien.
La remise de Jean Lucas en retrait vers Caio Henrique et le dégagement du latéral brésilien vers Ben Yedder. Il n'arrive pas à conserver le ballon. Julien Laporte écarte pour Lorient sur la gauche. Armand Lorienté, le crochet intérieur, la passe vers Samba Soumano, bien arrêté par Guillermo Maripane. 0-0, 50 minutes de jeu tout pile désormais. Quentin Bois garde l'orienté qui sont un petit peu mieux dans cette deuxième période. La passe vers Terem Moffi, l'appel du Nigérian est à l'opposé de la passe de Quentin Bois garde. La récupération de Jean Lucas, le seul monégasque peut-être à un bon niveau cet après-midi. La talonnade vers Vanderson, le latéral brésilien vers Wissam Ben Yedder, le capitaine qui décroche beaucoup plus désormais pour toucher les ballons. Le centre de Jean Lucas dans les airs au troisième poteau vers les ultra monégasque. 0-0 après 50 minutes et 20 secondes de jeu. ce côté droit ne marche pas si bien que ça tout de même, le nouveau centre raté, on va peut-être attendre des changements. Il y a trois monégasques toujours à Aguilar, toujours Gelson Martins et Golovin à l'échauffement.
Manu. Non, tu vois, on a l'impression que Lorient veut essayer de marquer un but et se protège mieux, davantage, ouais, se projette davantage vers l'avant. Mais il faut qu'il fasse attention parce que les monégasques, quand ils récupèrent le ballon, ils le récupèrent au milieu de terrain et ils se projettent.
Ouais, attention, avec ce mauvais ballon, doublon Mendes sur le centre de Sofiane Diop, le ballon en retrait de Vincent Le Goff vers Mathieu Dreyer. L'intervention qui avait trompé, qui avait pris à contre-pied son gardien, mais le ballon va finir en corner. Heureusement pour les hommes de Christophe Pélisse qui est 0-0, 50. Et une minute de jeu, la perte de balle à Doublang Mendes, le ballon contré par Vincent Le Goff, ça aurait pu coûter très cher au Lorientais. Le corner donc de la gauche vers la droite, Sofiane Diop avec sa patte droite au premier poteau, dégagé par Doublang Mendes, c'est pas bien tiré. Sofiane Diop, il est pas forcément très à l'aise dans son match, il a tête ratée là par Caio Henrique, et le contre à venir peut-être pour le FC Lorient. Le contrôle de l'extérieur du pied d'Armand Lorientais au niveau de la ligne médiane, le petit pont de Quentin Boigard sur Djibril Sidibé, mais la rage des Monégasques et de l'international champion du monde français Djibril Sidibé va permettre aux rouges et blancs de récupérer le ballon, mais encore une fois, je vais le dire à chaque fois, c'est trop brouillon et Lorient récupère le ballon. 0-0, 52e minute de jeu.
Il est 14h09, on revient dans un instant à Louis II pour la suite de ce Monaco-Lorient. Important en termes de points également sur le haut du tableau parce que les Monégasques ont l'occasion de tenter de reprendre la 4e place, eux qui sont 7e du classement, mais pour l'instant, c'est pas le cas et c'est un bon point que les Lorientais sont en train de prendre. Retour à Louis II dans un instant avec Manu, avec Aurélien, puis on fera un tour des stades bientôt, des matchs qui commencent à 15h sur RMC. C'est la Ligue 1. C'est RMC, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Manu Amoros comme tous les dimanches après-midi. Et la Ligue 1, c'est la 24e journée que l'on vit ensemble depuis Louis II avec Aurélien Tiercin, Monaco, Lorient.
0-0, 55 minutes de jeu. Le ballon perdu par la défense monégasque. Armand Lorienté, l'ailier gauche du FC Lorient, perd fort là sur le côté gauche. Mais comme Sofiane Diop en première période, ses jambes vont trop vite pour sa tête et le ballon finit derrière la ligne de but d'Alexander Nubel. Les Monégasques vont pouvoir souffler et Philippe Clément décide de faire le grand ménage. Triple changement à venir. Le couloir droit en entier, Gelson Martins, Ruben Aguilar vont faire leur entrée, tout comme le meneur Alexander Golovin, sorti notamment de Kevin Volland, sorti également de Djibril Sidibé et la troisième sortie Vanderson. Donc c'est donc effectivement le côté droit de
côté droit, t'as raison,
qui sort, Aguilar Martins qui entre,
la et Volland remplacé par Golovin. La bouche a été plus vite que le cerveau, tu vois, un peu comme l'Orient.
Ça m'apprendra à me moquer.
Hein, tu te moques, bah, le karma, comme on dit.
C'est le fact-checker Thibaut Giangrande. Voilà. Deux fois aujourd'hui, t'as raison, je mérite. 57 minutes de jeu 0-0.
Mais en fait, c'est le problème, c'est que si tu nous donnes pas de but, Aurélien, avec oui, Manu, bah oui, avec non, Manu on va commencer à se fâcher, quoi. C'est ça le problème.
On n'a plus,
hein. Plus l'habitude. Manu, les changements de Philippe Clément. Ce couloir droit monégasque, Aurélien nous disait tout à l'heure qu'il les voyait à l'échauffement, là ils sont entrés, c'est pas ce que t'aurais forcément changé toi. Pourquoi pas finalement.
Non, moi j'aurais pas changé ça, mais bon, après c'est nous on voit ça de la télévision, donc c'est un peu plus compliqué quand tu es sur le terrain, tu vois peut-être les choses différemment, mais c'est vrai que ce côté droit, changer des défenseurs pour des défenseurs ou un milieu de terrain pour un milieu de terrain, je crois que j'aurais apporté peut-être un peu plus de pénétration dans l'axe, parce qu'on a du mal à trouver ces joueurs-là dans la profondeur. On l'a vu une fois en première mi-temps, c'était Ben Yedder qui a pris, ça a amené le danger. Je crois que
la grosse occasion, la parade de Mathieu Dreyer après le corner d'Alexander Golovin de la gauche vers la droite au deuxième poteau. C'est Jean-Lucas qui reprend le ballon au deuxième poteau. La bonne parade de Mathieu Dreyer sur sa ligne et ça va donner un nouveau corner pour les Monégasques de la droite vers la gauche, toujours 0-0 dans cette partie. On approche de l'heure de jeu et il va y avoir des buts, puisque côté Lorient, trois changements également offensifs. Dango, le Burkinabé, Ibrahima Koné, le Malien, et Enzo Lefebvre vont faire leur entrée. Le nouveau corner de la droite vers la gauche, dégagé par la défense lorientaise. Tchouaméni qui remet le ballon dans la surface des Merlus. Dégagement de Julien Laporte, le grand coup de patin pour remettre le ballon dans le camp monégasque. Ça va revenir jusqu'à Alexander Nubel. Mais trois changements offensifs pour Philippe Clément. Christophe Pélissier ne tarde pas, il demande à ses remplaçant l'échauffement avec 3, le signe 3 sur la main pour leur dire de tous venir. Donc Kone, Dango et Lefebvre vont faire leur entrée également du côté des Merlus. Les Monégasques toujours à l'attaque avec Lucas vers Alexander Golovin, le ballon un tout petit peu long, le Russe va être trop juste pour récupérer le ballon. 59 minutes de jeu tout pile, 0 à 0.
Ça accélère enfin un peu côté Monégasque, Manu, un tout petit peu.
Un tout petit peu, oui. Les entrants ont amené une certaine dynamique, il faut espérer que ça amène des buts. Mais tu vois, du côté de Lorient, Pélissier fait des changements. Moi, j'aurais pas fait parce qu'il y a un bloc qui est très solidaire, ils s'entendent très bien, ils arrivent à faire un bloc autour de leur gardien. Et ces changements peuvent amener peut-être un certain déséquilibre à cette équipe.
Trois d'un coup, c'est beaucoup.
Ouais, trois d'un coup, ça fait beaucoup quand même.
Ouais. On va voir. Et ça, parce que...
Bon, on verra bien. Ouais. Hein.
Lefebvre remplace Quentin Boiga, Sambou Soumano remplacé par Ibrahima Kone. Premier but la semaine dernière pour sa première apparition avec les Merlus contre Lens, ancien notamment du championnat de Norvège. On l'appelle le Lukaku malien, 1m90, très costaud.
S'il vient te voir tout à l'heure et qu'il te demande ton goûter, est-ce que tu résistes ou qu'est-ce que tu fais?
J'ai pas grand chose à lui donner, donc je vais baisser la casquette tranquillement et je vais quitter la principauté par la petite porte.
On aurait tous fait pareil.
Et il y aura Dango Ouattara qui va faire son entrée lui aussi, demi-finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina Faso. Ça tergiverse un petit peu avec le quatrième arbitre.
Alors, ce qu'on
0
va faire,
à 0, une heure de jeu.
À 14h17 dans l'intégrale foot sur RMC. On revient dans un instant pour faire le point sur ces changements et ce qu'ils apportent dans cette rencontre entre Monaco et Lorient. Mais comme tous les jours à la même heure, là, ce défi hippique sur RMC. C'est avec Frédéric Kita en direct de Vincennes. Salut Fred.
Bonjour Thibaut, bonjour Manu, bonjour à
salut
tous.
Salut Fred.
Et oui, à Vincennes, hein, puisqu'aujourd'hui c'est le Prix de France, c'est la revanche du Prix d'Amérique avec les trotteurs qui s'affrontent cette fois-ci sur un parcours de vitesse et 2100 mètres de la grande piste avec un non partant, le numéro 2 Bayakeno. Ils sont donc le plus que 14 concurrents engagés sur ce parcours. Et pour Zéphir Hippique, on accueille Pascal qui était là avec nous vendredi. Salut Pascal, comment vas-tu?
Salut, ça va très bien.
Alors aujourd'hui pour cette belle course, quel est ton favori?
Alors mon favori, ça sera le numéro 5, Zakonjo, qui n'a pas prouvé sa valeur cet hiver dans les différentes courses. Jean-Michel Bazir se met à son sulky. Je pense qu'il a visé cette course et il est hyper confiant a priori. Et moi, je le vois bien gagner ce 5.
C'est noté, merci Pascal. Imprécision, le cheval Zakonjo est à proposer à 6 contre 1 actuellement. Ma dernière minute, ça sera le numéro 6, Flamme du Goutier, une concurrente qui a terminé 3e du Prix d'Amérique, qui fait toutes ses courses et peut de nouveau terminer sur le podium. Manu, est-ce que tu as un petit favori dans ce quintet?
Favori, peut-être pas, mais pour amener peut-être un peu des rapports, Billy de Montfort, je pense qu'il peut terminer dans les 4-5 premiers.
Et Billy de Montfort, le numéro 4, qui participera ici à sa dernière course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avant d'aller à Cannes-sur-Mer. Elle est âgée de 11 ans et c'est un outsider effectivement séduisant, comme tu l'as dit, Manu. Donc rendez-vous à 15h15 à poursuivre cette course en direct sur RMC.
Et je peux dire que je croise les doigts, Fred, Manu, pour que Pascal l'emporte et qu'il puisse remporter une forte somme qui lui permette d'acheter un nouveau téléphone, Pascal, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Le 32-10, il commence à arriver en bout de course.
Je pensais que c'était moi à Vincennes qui entendais mal.
Non, c'est Pascal. Bonne chance à Pascal et merci.
Allez,
Fred,
à
tout à l'heure.
Ciao.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Après, je comprends. Si j'avais le 33-10 encore aujourd'hui, le Snake, vous rappelez ce jeu sur le serpent, je le regardais aussi. 14h19, l'intégral foot sur RMC. Retour à Louis II. Pardon? Non, j'ai cru que... Non, j'avais cru entendre quelqu'un. Aurélien à Louis II.
C'était pas moi. 0 à 0, 29 minutes encore à jouer. Les Monégasques à l'attaque, le centre de Ruben Aguilar au troisième poteau. Alors, Manu, on a changé de côté droit, mais les centres, ils sont toujours au troisième poteau. C'est le problème. Il y a un petit peu d'allant, d'entrain, mais on arrive
toujours. Aurélien, il n'y en avait pas en première mi-temps. Sidibé et Vanderson n'ont pas fait de centre.
J'ai vu Sidibé en faire 2-3 au troisième poteau. Je vais pas trop le taper dessus. Il y en a eu 2-3. 28 minutes encore à jouer, 0 à 0. Donc trois changements de chaque côté, offensif avec là Ibrahima Kone, justement buteur pour sa première. Si jamais il arrivait à scorer pour sa deuxième apparition, deux buts pour ses deux premières apparitions, ce n'est plus arrivé depuis 24 ans à Lorient. Le dernier à avoir réussi cela, c'était Ali Bouafia en 1998. Alors vraiment, c'est une stat de derrière les fagots, mais bon, voilà, ça fera plaisir à la famille d'Ali Bouafia. Il reste 27 minutes à jouer, 0 à 0.
Et on les embrasse, comme on dit, tu sais, dans ce
ouais,
genre de... S'ils nous regardent, on les embrasse, comme dirait Drucker. Ça, c'est le genre de stat, pour vous expliquer, vous qui nous écoutez.
Il n'y a pas d'occasion.
Ouais, c'est quand c'est 0-0, qu'on s'ennuie diminue un peu. Là, on commence à sortir ces stats. Ouais, bon, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, Aurélien, pendant ce temps-là, c'est qu'à 14h20, on va commencer notre tour des stats. Vous le savez, tous les dimanches, entre 14h et 15h, on fait le tour de nos stats, des matchs de 15h que vous vivrez sur RMC dans l'intégrale foot Ligue 1, autour de Benoît Boutron. Et on va commencer par aller à Angers pour retrouver Romain Asselin à 15h. Angers recevra Strasbourg. Salut Romain.
Salut les gars. Salut.
Pourquoi Romain faut-il suivre ce match?
Ah, tu me laisses ouvrir le bal. Position un peu délicate. Mais tu vois, je vais mettre un petit tacle à la carotide des copains.
Vas-y.
Ça va les calmer un peu. Il faut voir ce match parce que tout simplement, si vous voulez voir des buts, ça se passe ici. Ça se passe au stade Raymond Coppa.
On prend ça.
Strasbourg, deuxième attaque de Ligue 1, 45 buts après le PSG, 45 buts avec notamment 25 inscrits par le trio offensif Thomasson, Gamero, Ajorc. Tiens, Gamero, il pourrait battre un petit record. Souvenez-vous, le dernier joueur du Racing qui a marqué lors de 4 matchs consécutifs en Ligue 1, c'était un certain Pascal Nouma. C'était en 97. Eh bien, Gamero pourrait égaler Pascal Nouma cet après-midi. Il y a plein de petites stats, on aura l'occasion d'en donner tout au long de la rencontre. C'est vrai qu'on est impressionné par la puissance offensive de Strasbourg, mais on a envie de voir aussi ce que peut donner Angers. On se souvient du premier quart d'heure fantastique face à l'OM au Vélodrome la semaine dernière. S'il pouvait transposer ça pendant 90 minutes ou au moins une mi-temps, franchement, amateur de football, on serait ravis.
Ouais.
Non, il y a vraiment pas mal de choses belles à voir, je pense.
Ce sera à suivre à part
Raymond Coppa.
Tire de 15h avec toi, Romain. Et Manu, tu vas donner ton avis, ton pronostic sur ce match tout de suite, parce qu'on va parier.
Winamax, les meilleurs cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Gué, notre expert en paris sportif aujourd'hui. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Que disent les bookmakers?
3-20 la victoire d'Angers, 3-20 également le match nul, 2-40 le succès strasbourgeois, des Angevins très irréguliers cette saison face à une équipe de Strasbourg en grande forme mais qui a déjà perdu des plumes face à des adversaires à leur portée. Angers a les capacités pour moi de résister aux assauts des Alsaciens et vu notre chance, mine de rien, au niveau spectacle dimanche à 15h, je vous propose de miser sur le match nul. La cote sèche à 3-20 est déjà belle, mais le 1 partout me plaît bien également, il est coté à 5-30.
Manu, un pronostic Angers-Strasbourg?
Ouais, victoire de Strasbourg et but de Ayor.
Je te trouve ça tout de suite.
Le calcul en direct
avec le but d'ailleurs qu'il est à, il est à 2-20. Il est pas mal du tout.
Pas mal, ouais.
Ouais, 2-20. Hein. Petit joueur, bon. Merci Manu, merci Yoann.
Ah, petit joueur. C'est compliqué. Hein.
Si on gagnait de l'argent. Avec
alors, il vaut peut-être m'éviter parce que la cote de Strasbourg tout court est à 2,40. Je tiens à le dire. Un petit problème sûrement. Ça arrive.
Ah, voilà, d'accord. C'est que tu gagnes moins.
Strasbourg avec Ajorc, c'est moins que Strasbourg tout court.
Ah ouais. Petit c'est pas
problème.
Normal ça.
Ouais. Petit problème technique ou petite arnaque technique. Merci beaucoup, Yoann Guillet.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Angers-Strasbourg, ce sera à 15h. 15h, coup d'envoi également de Clermont-Saint-Etienne. Commenté sur RMC par Damien Tardieu. Salut Damien.
Salut Thibaut, salut Manu, salut tout le monde.
Voici ce qu'il y a toujours, salut. 0-0 entre Monaco et Lorient et qu'on n'a absolument rien raté. On y retourne dans un instant. On laisse le temps à Aurélien Tiercin de retrouver une autre stat à nous donner dans quelques instants. Damien, Clermont-Saint-Etienne, pourquoi faut-il suivre ce match?
Parce que ce sont deux des équipes les plus en forme. Si on prend les deux derniers matchs, bon, c'est vrai. Deux victoires consécutives pour Clermont qui a quand même fait tomber Rennes et qui est allé gagner à Nice. Et puis pour les Verts également, vainqueurs de leurs deux derniers matchs. Et deux équipes qui doivent confirmer qui n'ont jamais gagné trois matchs d'affilée cette saison. Voilà, c'est l'occasion. Les Verts 20e et dernier, 18 points face à Clermont 15e avec 24 points. C'est un derby en plus et forcément il y aura un stade plein ici au Montpied. Il faut savoir qu'en Auvergne on a longtemps été sevré de football de très haut niveau et que pour aller voir des matchs le plus simple ici, c'est à 1h30 de route, c'est ça, à 150 km, c'était d'aller à Saint-Etienne. Et il y a des fans des Verts en Auvergne, aux quatre coins de la région, évidemment. Donc c'est un derby, c'est un match qui sent la poudre en bas de tableau. Voilà pourquoi il faudra bien être avec nous à partir de 15h tout à l'heure.
Longtemps sevré de très haut niveau, est-ce à dire que vous avez retrouvé le très haut niveau?
Oui, de jouer en Ligue 1 déjà, c'est une première. Oui, voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà.
À tout à l'heure, merci Damien. Clermont-Saint-Etienne, ton pronostic, Manu?
Saint-Etienne qui perd pas, donc nul.
Match nul entre Clermont et Saint-Etienne. Dans quelques instants, on ira à Francis Leblay retrouver Xavier Grimaud, Brest 3. On ira également à La Beaujoire pour Nantes-Reims avec David Philippot. Mais retour à notre direct, le match en cours de cette 24e journée de Ligue 1. Monaco-Lorient, Aurélien.
22 minutes encore à jouer, à espérer voir quelque chose. 0-0. Armand Lorient est rattrapé par Axel Disasi. La petite faute pour le FC Lorient au niveau de la ligne médiane décalée sur la gauche du rond central. Et il n'y a pas grand grand chose quand même. Philippe Clément, je vais pas dire qu'il devient foudrage parce qu'il reste assez flegmatique, mais il encourage ses joueurs. Il est un petit peu dépité par la faiblesse technique. Ben Yedder est introuvable tout simplement à la tête, à la pointe de cette attaque. C'est pourtant le meilleur buteur de Ligue 1. Et Manu, pour l'instant, c'est le grand absent de cette partie.
Ouais, pourquoi on le change pas?
Bah on a changé d'entraîneur pour qu'il soit content de rester sur le terrain.
Ben Yedder.
Mais on a changé Robert Kovac parce qu'il ne faisait pas assez jouer. Donc l'idée, c'est de laisser sur terrain.
À un moment donné, quand tu ne trouves pas des solutions et qu'il n'apporte rien, il faut quand même changer, trouver de la profondeur.
C'est qui Robert Kovac?
C'est le frère de Nico, pardon, je me suis encore trompé. Tu vas me faire passer pour un, pour un commentateur à 0-0.
Non, tu es l'un des meilleurs commentateurs sur AMC. Après, on n'est pas à l'abri de.
Ça sent le 0-0 quand même.
On fera un petit montage de tout ça, on enverra la direction et puis c'est eux qui jugeront.
C'était l'entraîneur adjoint de Monaco. Voilà, c'est le défenseur central du Bayern.
Juste sur Ben Yedder, Manu, toi tu proposes de le sortir. Finalement, Monaco reste sur ce 4-2-3-1. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui amener quelqu'un d'autre à ses côtés? Alors, Volant est sorti, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer le système? On sait que Ben Yedder tout seul devant, c'est compliqué. À deux têtes, ce serait pas mal, non?
Non, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est dans la maîtrise, ça va, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut aller essayer de perforer chaque fois cette défense. Et c'est compliqué. Compliqué parce qu'il n'y a personne qui prend un risque d'aller dribbler son vis-à-vis. Donc, du moment que tu n'as pas de dribble et que tu fais que des passes, ça ne crée pas toujours le décalage. Donc, si tu arrives à dribbler ton défenseur ou ton milieu de terrain et que tu amènes ce décalage, là, ça peut être dangereux pour l'équipe de Lorient. Mais là, on ne voit pas, on ne voit personne qui prend des risques dans le dribble, donc à partir de là, Lorient se contente de ça et joue très bien le coup. Hein.
Le temps, le score, Aurélien.
0-0, 21 minutes encore à jouer. Ruben Aguilar qui essaie de mettre du rythme dans cette partie avec Gelson Martins devant lui, le côté droit, peut-être le dribble du portugais, mais tu l'as dit Manu, il ne le tente pas, il revient vers l'arrière. 0-0.
C'est comme tout à l'heure, Diop est dans la surface de réparation, il est arrivé à dribbler un défenseur, mais après il centre alors qu'il avait encore un défenseur éventuellement à les provoquer.
Alors pour vous dire, même d'habitude le dimanche après-midi on a plein de messages sur le hashtag RMC Live qui concerne le match. Bon là ça réagit plus sur, on parlait téléphone tout à l'heure, il y a Taf qui nous dit, est-ce que vous vous souvenez du StarTAC avec le clapet ou le Ericsson T10? Mais c'est vrai qu'à l'ancienne, ces téléphones qu'on ouvrait avec le clapet. Mais ça, c'est qu'on mettait aussi la sonnerie. Vous vous rappelez, Aurélien, tu te souviens? On allait sur Internet et puis on recopiait une sonnerie de flic à Miami, etc.
Voilà. La soupe aux choux, j'ai déjà eu ça. Oui, malheureusement.
Moi, j'avais premier Gaou sur mon 33.
Non, mais les gars, on a un match à commenter là.
On les attend en fait. C'est nous qui les attendons.
On les attend. Et là, on se rend compte en même temps qu'on est tellement vieux, Aurélien. 14h27, l'intégrale foot sur RMC. Petite pause et dans un instant on revient, Louis de Haye. Ça va arriver ce dernier quart d'heure, les Monégasques vont pousser, les Lorientais vont partir en contre et ça va finir à 4 partout. Ne changez rien, l'intégration.
Attention, attends, Water, vas-y. Même qui va entrer dans la surface de réparation Monégasque et le tacle de Guillermo Maripane. Pas de faute, c'était quand même très limite. 0 à 0, 20 minutes à jouer.
On l'aura tenté. Retour dans un instant, la fin de cette rencontre, ça va s'accélérer sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Thibaut Giangrande.
J'ai l'impression d'être en 2002. Qui m'appelle sur mon 3210? Non, mais non, c'est terminé. Il est 14h30. Vous êtes sur RMC. Effectivement, c'est la Ligue 1. Dans une demi-heure, 4 matchs de la 24e journée. Mais effectivement, d'ici là, va falloir terminer cette petite purge. Monaco-Lorient, merci à Alban, Geoffrey en régime pour cette production. Nous ne sommes plus en 2002, les sonneries ont changé. Chabani Nonda n'est plus là, Aurélien Tiercin et Monaco contre Lorient. C'est toujours 0-0.
Mais normalement, Ben Yedder, c'est pas mal. Mais cet après-midi, il ne touche aucun ballon. 0-0. Pas vraiment d'occasion. Deux situations. Allez, au grand maximum en première période pour les Monégasques. Et là, il reste 17 minutes dans cette partie. Et le 17e de Ligue 1, Lorient est bien en place. Tranquillement installé sur cette pelouse de Louis II.
Ce serait un bon point, Manu, pour les Lorientais.
Ce serait un très bon point. Et puis, ils ne sont même pas acculés devant leur but avec des situations pour les Monégasques et rien. Où il est en difficulté, on voit une équipe tranquille, bien organisée, et puis voilà.
Et ça se balade de la gauche vers la droite avec Caio Henrique qui centre vers la droite et Ruben Aguilar. Sofiane Diop revient dans l'axe et écarte de nouveau à droite pour Ruben Aguilar dans la surface de réparation. L'ancien Montpellierin qui n'a pas de solution, il va tenter le centre avec son pied gauche décalé de la tête par Jean-Lucas. C'est touché par un Lorientais. Ça va quand même donner un corner de la gauche vers la droite alors qu'on va bientôt attaquer le dernier quart d'heure de cette partie. Caio Henrique va laisser le corner à Alexander Golovin, le russe, 2 buts, 2 petites passes décisives cette saison, et il va le jouer très court avec Caio Henrique. Le centre dégagé de la tête par Ibrahima Koné. Gelson Martins récupère pour l'AS Monaco à l'entrée de la surface de réparation à droite, et monsieur De Chepy va de nouveau siffler une faute de Guillermo Maripane dans la surface de réparation sur Julien Laporte, et Mathieu Dreyer va dégager l'Orient tranquillement. Bon, 75 premières minutes ennuyantes, on va le dire. Il nous reste un quart d'heure, on va espérer que ça s'active un petit peu.
On va espérer. D'ici là, on va faire un tour des stades, Aurélien. Je crois qu'à 14h32 dans l'intégral foot, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. À 15h04, autres matchs de la 24e journée, avec, on l'espère, un peu plus de spectacle. Nous étions au stade Raymond Coppa, on était à Montpied, direction la Beaujoire, parce que dans une demi-heure, le FC Nantes reçoit le stade de Reims. Bonjour David Filippo.
Bonjour Thibaut, bonjour Manu, bonjour à tous.
Salut David.
Pourquoi faut-il suivre ce match, David ?
Mais moi, je suis curieux de voir comment ce FC Nantes va gérer ce rendez-vous contre Reims cet après-midi, placé, situé entre cette qualification en Coupe de France, c'était jeudi dernier face à Bastia pour les demi-finales de la Coupe de France, et ce match qui va vite arriver samedi prochain, puisque le FC Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Le stade sera plein. Là, je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde cet après-midi du côté de la Beaujoire. J'aurai l'affluence tout à l'heure. Et surtout, Reims, c'est le poil à gratter d'Antoine Camboire. Il a perdu depuis qu'il est à Nantes, il a perdu 2 fois. Il a vraiment ses 2 défaites en travers de la gorge. Il avait perdu 2-1 la saison dernière et 3-2 en début de saison. On a senti un esprit de revanche hier lors de la conférence de presse. J'ai parlé d'un match piégeux. Il m'a un peu envoyé balader. Il voulait pas parler de match piégeux. Il disait juste qu'il voulait absolument battre Reims. Mais en tout cas, on va voir comment les Canaries vont gérer ce match face à une équipe de Reims extrêmement diminuée. Il manque Gravillon, Zenelli, Berisha, Cajus, Kassama, Fauquette, Touré. Il manque énormément de monde. Et du côté de Nantes, il y a quasiment tout le monde.
Et quand Antoine Camboire t'envoie bouler en conférence de presse, David, c'est comme Aurélien face au Lukaku, l'orienté, on baisse la tête et puis on envoie notre confrère.
Hein. On n'insiste pas trop.
Oui, voilà.
On n'insiste pas trop.
Il est gentil, Antoine.
Oui, ouais, mais bon, oui. Bon, il est gentil, mais il ne faut pas l'énerver.
Il ne faut pas trop l'énerver.
Un point commun avec Manu, peut-être. Manu, tiens ton pronostic. Nantes.
Ouais. Avec tous les joueurs de Reims qui ne sont pas là, je pense que Nantes peut prendre le dessus.
Merci, David. On se retrouve à 15h pour Nantes-Reims à vivre en direct sur RMC. Je vais te surprendre, Manu. Il y a toujours 0-0 entre Monaco et Lorient.
Ah bon ?
Ouais, je te jure. On y retourne dans un instant. D'ici là, direction Francis Leblé, le Finistère, où Brest, à partir de 15h, recevra les Stacks. Recevra 3. Bonjour, Xavier Grimaud.
Salut Thibaut, salut Manu, bonjour à tous.
Pourquoi suivre ce match ?
Il faut suivre ce match parce que c'est un match dans la course au maintien qui pourrait se resserrer, parce qu'on a envie de voir Brest. Est-ce que Brest va réagir parce qu'ils n'ont rien montré en Coupe de France et à Rennes la semaine dernière ? Il y a eu des mots quand même de Michel Derzakarian sur le manque d'ambition du club. Il y a des changements, au moins 4 titulaires habituels qui sont sur le banc avec des remplaçants qui jouent. Donc une équipe revancharde, de la concurrence, on a envie de voir ce que ça va donner face à une équipe de 3 qui pourrait revenir à 5 points seulement de Brest en cas de victoire ici. Donc le maintien n'est pas encore fait pour les Finistériens, et surtout on va voir également la première à Francis Leblé de l'Algérien Youssef Belaïli. Tu sais Thibaut, Manu, il y a déjà des drapeaux algériens dans les tribunes, et surtout comme tu adores les jeux de mots, Thibaut, ce n'est plus le stade Francis Leblé, mais c'est le stade Francis Lebled, évidemment. C'est les supporters algériens c'est le hashtag des supporters algériens. D'accord. qui suivent en masse le stade brestois désormais. Donc à tout à l'heure au stade Francis Lebel. Sous la tempête, il y a beaucoup de vent et de pluie cet après-midi.
Oui, c'est ça. Il faut faire attention, ça peut dépayser.
C'est pas l'Algérie.
C'est pas le même temps que Bled, justement.
C'est pas l'Algérie.
Brest 3, ton pronostic, Manu.
Brest.
Rendez-vous à 14h35. L'intégral foot avec cette 24e journée de Ligue 1 et ce Monaco-Lorient. Aurélien, pourquoi faut-il suivre ce match
redécouvrir les musiques du début du 21e siècle pour compter
Manu,
le nombre de mes erreurs en commentaire.
C'est pour ça qu'il n'y a que 2500 personnes au stade Louis II. Il savait que contre l'Orient, ce n'est pas terrible.
Et tiens, justement, toi qui as joué à Monaco pendant des années, qui a gagné de nombreux titres pendant les années 80, est-ce que ça a toujours été le cas de supporters, même quand ça gagnait les titres?
Quand on a gagné les titres à l'ancien stade aussi, il y avait très peu de monde.
Donc, et ça change quoi quand tu es sur le terrain, toi qui as connu d'autres clubs?
Quand tu, par exemple, si on prend un peu l'exemple entre Monaco et Marseille, quand tu sors du tunnel, parce qu'à l'époque il y avait un tunnel, donc tu es arrivé sur le terrain, il y avait 50 000 personnes qui t'encourageaient, qui étaient là, tu voyais les drapeaux. Alors qu'à Monaco, tu étais en train dans les vestiaires de te dire, bon, comment il faut que je fasse? Il faut que je me motive, on se motivait les uns les autres, parce que malheureusement il n'y avait que 2 000 personnes, 3 000 personnes à l'époque.
T'as eu l'affluence là pour cet après-midi, Aurélien, parce que c'est vrai que nous on voit l'écran où bon c'est clair semé. Alors après on peut se dire aussi que les Monégasques font très attention, ils n'ont pas envie de se coller les uns aux autres en cette période de pandémie hein, dans le stade, donc ils se dispersent un peu. Mais bon, c'est
ça
pas
doit être ça.
Cas,
oui, ça doit être ça. Non, j'ai pas eu le chiffre officiel. C'est vrai qu'ici on nous les donne pas forcément s'ils sont pas énormes. Mais effectivement, toujours 0-0, 10 minutes encore à jouer. Les Monégasques à l'attaque avec Caio Henrique sur le côté gauche. L'appel de Jean Lucas, il va obtenir le ballon. C'est Golovin qui va le prendre dans ses pieds. Le décalage du Russe pour Caio Henrique. C'était pas mal joué ça, à droit à 3 sur la gauche du terrain. Le centre est de nouveau contré. Vraiment la défense lorientaise qui est très très regroupée dans la surface de réparation. Et ça suffit à contrer sans trop se dépenser d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de dribble, comme le disait Manu, il n'y a pas de tentative individuelle. Et là, Elliot Matazo, le jeune milieu belge, va remplacer Jean Lucas, alors que tout à l'heure, Magnès Akliouche avait remplacé Sofiane Diop. Le corner de la gauche vers la droite, les 10 dernières minutes. Toujours ce score de 0-0 entre Monaco et le FC Lorient. Le corner d'Alexander Golovin, le Russe, qui n'a pas encore trouvé la bonne mire et la tête de Boulang Mendes. Excellent match dans le jeu aérien, en tout cas pour le latéral Guino Bisséen. Jelson Martin sur le côté droit va se faire accrocher par Armand Lorienté. Coup franc à venir pour l'AS Monaco, de la droite vers la gauche, et carton jaune d'ailleurs pour Armand Lorienté. 0-0, 9 minutes encore à jouer, donc ce coup franc à venir.
Manu, on y va tout droit quand même hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais
j'ai l'impression.
On y va tout droit vers ce 0-0. Pourquoi pas un coup de pied arrêté peut-être hein. Un coup franc lointain comme celui-ci.
Ouais, il y a que là où éventuellement les Monégasques peuvent faire la différence, mais bon, il y a Koné quand même qui est rentré et qui a une belle taille, donc il faut essayer d'éviter ce grand gaillard.
Ouais, le corner pour l'AS Monaco, de la droite vers la gauche, collé à la ligne de touche. Il y a le pied gauche de Caio Henrique et le pied droit d'Alexander Golovin. C'est le Brésilien, le joueur peroxydé, qui fait des petits signes à ses coéquipiers. Il demande d'aller plonger vers la ligne de but de Mathieu Dreyer. 8 minutes et 20 secondes encore à jouer, à espérer marquer enfin ce but. 0-0 entre Monaco et Lorient. On prend son temps, monsieur De Chépy, qui demande aux défenseurs, notamment à Julien Laporte et à Wissam Ben Yedder, de ne pas trop s'accrocher dans la surface de réparation. Dans l'histoire, il y a également forcément Guillermo Maripane, le grand chilien d'1m92, qui a été déjà sanctionné de 2 fautes. Le coup franc tiré par Caio Henrique, la tête de Ben Yedder, la parade avec le pied droit de Mathieu Dreyer. Elle était belle cette tête de Wissam Ben Yedder. Le nouveau centre d'Eliott Matazo dégagé par la défense lorientaise, récupéré par Alexander Golovin sur la droite de la surface de réparation. Il ne peut pas mettre de vitesse, il n'y a personne dans l'axe. C'est Caio Henrique remet en arrière, le ballon toujours dans les pieds monégasques avec Aurélien Tchouaméni. 0-0, 7 minutes encore à jouer, le centre de Tchouaméni au deuxième poteau. Il était tout seul, Axel Dizazi, surpris par ce ballon qui lui arrive au niveau de la poitrine. Il essaie de mettre la tête, il essaie de mettre les tresses, Axel Dizazi, et ce ballon n'est pas assez appuyé, ça passe à côté des cages de Mathieu Dreyer. 0-0, mais au moins Manu, il s'est passé quelque chose.
On a vu une occasion. Ben Yedder, un superbe sauvetage de la part du gardien.
Ouais, tu vois, tu voulais le sortir.
Bon réflexe, hein, quand même. Hein, pied droit, on dégage comme ça, bien. Hein.
On dirait, j'allais dire Vincent Gérard, le gardien de handball. Non, pas trop. On dirait Thierry Omeyer pour le coup. Arrêt façon handball.
Tous les trois la même coiffure, en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de cheveux.
Il y en a un qui a fait
qu'est-ce
un peu moins d'arrêt.
Bon cœur, alors aujourd'hui.
Non. C'est pas parce qu'ils ont le poil capillaire discret qu'il n'en reste pas très joli. Exactement.
En plus, ils sont bons.
Ils sont bons. Il reste 10 minutes, Aurélien.
Ouais, 7 minutes même. 0-0 entre l'AS Monaco. Martins décale à Ruben Aguilar sur le côté droit. On remet pour Aurélien Tchouaméni, international français, vers de nouveau Ruben Aguilar. Jelson Martins essaie de dribbler. Bonne défense de Thomas Monconduit, Armand Lorienté sur le côté droit. Le portugais repique vers Elliott Matazo. Là, on sent les monégasques un petit peu plus paniqués à essayer d'accélérer pour marquer ce but. Mais il n'y a pas de solution. Les 11 Lorientais regroupés devant la surface de réparation, obligés de repasser par Dizassi, par Tchouaméni. Le centre d'Aurélien Tchouaméni est contré. Ben Yedder essaie de se faufiler dans la surface de réparation, mais Mathieu Dreyer qui a bien giclé et qui vient chipper ce ballon dans la surface de réparation. Mathieu Dreyer qui a remplacé Paul Nardi en cours de saison. Nardi qui n'a pas fait une grande première partie de saison. Pélissier a décidé de confier les cages à Mathieu Dreyer, éternel numéro 2, toujours plutôt avec cette étiquette d'éternel remplaçant. On cherchait même une doublure. On a parlé de Steve Mandanda, on a parlé de Roman Bürki, le gardien suisse de Dortmund. Mais finalement, attention, ce ballon laissé par Maripane, c'est récupéré par Nubel. Mais Manu, Mathieu Dreyer qui avait quand même cette pression de voir peut-être un remplaçant arriver. Il est toujours dans les cages. Et ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Il est toujours efficace.
Non, ça ne l'a pas perturbé. Là, il fait un bon match. Bon, c'est vrai que les Monégasques ne l'ont pas mis sur orbite chaque fois. Sauf là, sur la tête de Ben Yedder. Mais sinon,
il vaut mieux que d'être remplaçant. Donc il le montre au fur et à mesure de ses matchs, puisque la semaine dernière il avait été bon contre les Lensois.
Ouais, il n'avait pas pris de but, Mathieu Dreyer, et ça arrive assez peu au Lorient. Et la mauvaise passe d'Axel Dizazi récupérée par Armand Lorienté, le petit contre de Ruben Aguilar, touche sur la gauche du terrain au niveau de la ligne médiane. Et nouveau changement du côté du FC Lorient, c'est Armand Lorienté justement qui cède sa place au latéral brésilien Igor Silva. 5 minutes tout pile encore à jouer dans le temps réglementaire, et les monégasques n'y arrivent pas et butent sur la défense lorientaise 0-0.
14h42, c'est l'intégral foot sur RMC avec Manu Amoros. À 15h, dans 17 minutes précisément, le coup d'envoi de 4 autres matchs de cette 24e journée qui se poursuivra ensuite à 17h par l'affiche Lens-Bordeaux sur RMC et qui s'achèvera ce soir à 20h45 par Metz-Marseille. Je vous donne d'autres rendez-vous de l'après-midi comme ça. À 16h, le rugby, le tournoi destination, la fin de la deuxième journée au lendemain de la victoire de la France contre l'Irlande. C'est l'Angleterre qui se déplace en Italie. Début du match à 16h et ce sera à vivre également en direct sur RMC. Et puis je vous rappelle aussi le cocorico du jour. 3 médailles d'un coup pour la France. Aujourd'hui on en est à 10 aux Jeux Olympiques de Pékin, dont l'or, deuxième médaille d'or pour Quentin Fillon-Maillet, champion olympique de la poursuite. Sa 4e médaille sur ces Jeux Olympiques. C'est un nouveau record. Jamais un athlète français n'avait eu autant de médailles sur une seule et même édition des Jeux Olympiques. 14h43, il reste 5 minutes. On y retourne, il le faut, à Louis II. Monaco-Lorient, Aurélien Thiers.
Et la petite faute de Magnès Akliouche, le jeune monégasque, derrière Bonke Innocent, le milieu de terrain international nigérian. On le disait en début de match, une expérience européenne. Il est arrivé au mercato hivernal en Bretagne et il fait aussi du bien dans l'équilibre de cette équipe. Alors, c'est toujours pas génial offensivement, mais voilà, ça a permis d'équilibrer cette équipe.
Ouais, mais c'est vrai, Aurélien. Défensivement, il a amené de la stabilité devant cette défense de Lorient. Et puis, j'ai l'impression qu'il a l'air très bon techniquement. Et pour relancer dans sa position de milieu un peu défensif, c'est de bon augure pour la suite quand même pour Lorient.
Ouais, avec exactement. Ce joueur de Santi. Exactement, ça a été une belle recrue. 4 millions d'euros tout de même arrivé de Malmö en Suède, club avec lequel il a été sacré 2 fois champion de Suède. 3 minutes dans le temps réglementaire. L'AS Monaco, 0. Le FC Lorient 0, Matazo, le milieu belge de l'AS Monaco là, qui est bien sorti, qui a fait ressortir le ballon vers le moitié de terrain lorientais. Sur le côté droit désormais avec Ruben Aguilar et Gelson Martins, le centre du Portugais. Non, il essaie de passer en puissance, mais il est contré par Vincent Le Goff. Bon match également du capitaine lorientais Elliot Matazo, de nouveau au cœur du jeu monégasque avec Guillermo Maripane. Le petit centre au deuxième poteau pour Aguilar, la remise et le dégagement de Julien Laporte en catastrophe. C'était intelligemment fait de la part d'Aguilar. Il aurait peut-être pu tirer également lui-même. Ben Yedder derrière qui essaie de toucher le ballon avec son crampon gauche, dégagé très loin par la défense lorientaise. 2 minutes et 20 secondes encore dans le temps réglementaire. Le chrono qui défile évidemment à l'avantage pour l'instant du 17e de Ligue 1 du FC Lorient, qui vient chercher un bon point ici à Louis II. Mais l'AS Monaco, 7e du classement, qui peut remonter à la 4e position, n'y arrive pas pour l'instant. Guillermo Maripane pour Elliot Matazo. Le bloc monégasque désormais très très haut. L'ouverture de Maripane vers Caio Henrique, le Brésilien qui ne peut pas centrer tout de suite, le ballon retourné devant Igor Silva, le centre au deuxième poteau. Il y avait Gelson Martins, c'est dégagé encore une fois. Les Lorientais qui sont quasiment sur leur ligne de but, on croit à une défense de rugby sur l'embut, et ça y arrive, on y arrive à dégager très très loin. Ça va refiler jusqu'à Alexander Nubel. Pour l'instant c'est sauf qui peut à Lorient, Manu, mais ça tient.
Ouais, c'est vrai qu'ils défendent très bien et ils ont des difficultés à se placer entre les joueurs monégasques et le porteur du ballon. Mais ils tiennent bien et peut-être que s'ils reculent un peu trop, ça risque de leur jouer peut-être des mauvais tours parce qu'il reste encore 2 minutes plus le temps additionnel, donc c'est pas évident.
Et l'erreur de jeunesse de Magnès Akliouche, la déviation magnifique d'Alexander Golovin pour le jeune Akliouche. Il repique dans l'axe de la surface de réparation et il s'envole, se roule par terre. Oui. Mais monsieur De Chépy n'y a pas cru. Carton jaune pour simulation pour le jeune monégasque, et au Boulogne Mendes et Bonke Innocent qui se tapent dans les mains puisque les Lorientais. Alors c'est vrai qu'à vitesse réelle, moi, d'où je suis, de la position commentateur, on aurait pu penser à un pénalty, mais il se jette largement en avant.
C'est du papa d'Akis Cizeron. C'est une espèce de bel envolé. La réception n'est pas terrible par contre sur la pelouse, mais l'envolée était belle. Hein.
Ouais. Et au-delà de la vanne, Manu, c'est quand même dommage parce qu'il y avait une occasion pour les monégasques et il cache un peu le travail de ses coéquipiers.
Ouais, c'est vrai. En plus, il se jette, il plonge, mais on a l'impression qu'il peut récupérer le ballon derrière. Pourquoi faire ce plongeon alors que le défenseur, c'est vrai, il ne bouge pas, ni les bras, ni le corps, ni les jambes. Donc pourquoi il plonge comme ça, quoi?
Et c'est dommage. Dans la surface de réparation avec sa chevelure étoffée. Voilà, exactement. J'ai fait un petit mix de Magnès Akliouche qui n'a pas réussi à remettre le ballon, mais on le retrouve au cœur du jeu. La remise vers Guillermo Maripane. Caio Henrique est sur le côté gauche. 0-0 les 10 dernières secondes du temps réglementé entre l'AS Monaco et le FC Lorient. Maripane encore une fois qui va s'entrer dans la surface de réparation directement dans les gants de Mathieu Dreyer. Ruben Aguilar et Jackson Martins faisaient l'appel côté droit, mais ça va permettre au Merlu de se relancer. 3 minutes de temps additionnel. L'urgence est désormais critique pour les hommes de Philippe Clément. Ruben Aguilar qui remet le ballon vers l'avant, contré par le latéral gauche Vincent Le Goff, et il n'y a pas d'espace et il s'en veut. Ruben Aguilar, il demande à des coéquipiers, à Ben Yedder, à Martins, de venir chercher le ballon, parce qu'on perd du temps, on perd de précieuses secondes. Plus que 2 minutes et 30 secondes dans le temps additionnel désormais. Toujours côté droit avec Ruben Aguilar et Jelson Martins. La bonne défense encore et encore de Thomas. Mon conduit le centre de Martins dans la surface de réparation, ça passe devant tout le monde, et le dégagement d'Igor Silva, il s'est complètement trompé de côté. Ça va aller en corner, une occasion pour l'AS Monaco de la droite vers la gauche à venir. Il y a quand même un petit peu plus d'envie, un peu plus de détermination côté monégasque, mais bon, c'est probablement trop tard.
Ouais, ouais, et ça reste stérile surtout, hein, parce que à part de Ben Yedder sur une opportunité, après c'est brouillon un petit peu, ça manque d'intelligence au niveau du jeu. Il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de prise de risque, donc c'est dommage pour les monégasques.
Allez, Golovin qui tire le corner de la droite vers la gauche, dégagé par la défense lorientaise. C'est encore mal tiré de la part du Russe, mais le ballon récupéré par Alexander Golovin, le Russe qui vient frapper du gauche, c'est à ras de terre, ça passe à côté des cages de Mathieu Dreyer, qui va remonter ses chaussettes tranquillement, se relever, parce qu'il gagne du temps, il gagne un point peut-être pour le FC Lorient. Oui. 0-0, une petite minute et 20 secondes à jouer dans le temps additionnel. Mathieu Dreyer va prendre tout son temps pour dégager.
Manu, Monaco aura fait 10 bonnes minutes là, les dernières, mais meilleur que tout le reste.
N'exagère pas.
Mais non, mais avec ces 10 dernières minutes, s'ils avaient commencé comme ça, peut-être que la défense lorientaise aurait craqué plus tôt, non? Non,
même pas. Oui, peut-être, mais ils l'ont pas fait. Donc à partir de là, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. C'est une équipe qui a des grosses qualités, mais aujourd'hui ils tombent contre une équipe de Lorient qui est bien en place, et ils ont pas su contourner ce bloc défensif très important.
La dernière minute sur RMC.
Attention avec l'attaque lorientaise tout de même. Oubulang Mendes pour Igor Silva, le Brésilien, qui est sur le côté droit quasiment au niveau du poteau de corner, mais bien récupéré par le duo Akliouche Maripane, le défenseur chilien qui a toutes enjambées, repique vers l'avant. Alexander Golovin, le crochet intérieur, il se fait rattraper par Akliouche. Jelson Martins qui vient quand même piquer le ballon, la petite roulette et la faute sifflée par monsieur Dechepi. Les 30 dernières secondes, coup franc pour l'AS Monaco. On est à 40-42 mètres, légèrement décalé vers la gauche quand on regarde l'axe du but de Mathieu Dreyer, et là il va falloir mettre toutes les cartouches dans la surface de réparation. Alexander Dubel, je pensais qu'il allait quitter sa surface de réparation, il reste tout de même dans la moitié de terrain monégasque, et Caio Henrique aura au bout de son pied gauche, au bout de ses crampons, l'ultime occasion pour l'AS Monaco qui bute contre le 17ème de Ligue 1. C'est tiré au deuxième poteau, un clou où je ne peux pas toucher le ballon. Jelson Martins va se jeter comme un mort de faim sur le ballon, la remise en arrière sur Ruben Aguilar, le nouveau centre au deuxième poteau, dégagé de la tête vers son but, c'était très compliqué, c'était terminé. Monsieur Dechepi siffle la fin de cette partie sans même laisser ce corner se dérouler. 0-0 entre l'AS Monaco et le FC Lorient. Les premiers points lâchés par Philippe Clément ici au stade Louis II, et les Lorientais se congratulent après 15 matchs sans victoire en Ligue 1. Il y avait eu la victoire à Lens. Ce n'est qu'un match nul ici à Monaco, mais c'est quasiment comme une victoire quand on est 17ème de Ligue 1 et qu'on vient arracher un point ici.
C'était Aurélien Tiercin en direct de Louis II. Merci Aurélien, passe une bonne après-midi. Aurélien. Et à bonne très vite. Journée. Merci pour ce 0-0 Aurélien. Manu.
Si Aurélien recommande un match de 13h, on n'y va pas.
Ouais, non, on n'ira pas. on ne verra pas tout simplement. Manu, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt pour les Monégasques. Ils avaient l'occasion de reprendre la 4ème place. Et finalement, ils restent 6ème, 37 points à hauteur de Rennes, de Lyon, mais
Oui, mais tu vois Thibaut, vu le match, je crois que il méritait pas plus, quoi.
C'est clair.
Parce que d'abord ils ont pas été vraiment dans le match tout entier, c'est-à-dire qu'au niveau technique, tactique, des mauvaises passes, des mauvais contrôles, on a eu l'impression que c'était des Monégasques qui avaient peut-être pas envie. Il y a eu peut-être la fatigue aussi du match de Coupe de France contre Amiens, mais bon, ça excuse pas aussi cette non production de jeu de la part des Monégasques. Et il faut féliciter les Lorientais parce qu'ils ont fait quand même un très bon match. Solide. Si on les a pas vus très beaucoup vus offensivement, on les a beaucoup vus défensivement avec un bloc bien compact. Et c'est bien pour eux, deux matchs, trois points, c'est super.
Deux matchs, 4 points même, hein, puisqu'ils avaient battu.
Ah oui, 4 points, Lens, pardon. Ouais. Ouais, c'est
la
ça,
victoire à 3 points depuis, ah ouais, 3 points, depuis ouais, une trentaine d'années.
La victoire de 2 points, oh là là.
Monaco qui ira à Bordeaux dimanche prochain. Lorient, qui est 17e, recevra Montpellier. Merci Manu, passe un bon dimanche.
Merci Thibaut,
bonne Saint-Valentin. Et on se retrouve dimanche prochain.
Aussi, au revoir.
Ciao Manu, 14h52. Vous êtes sur RMC, l'intégral foot Ligue 1 dans un instant. Avec Benoît Boutron qui fait son entrée dans ce studio. C'est les 4 matchs de 15h, hein, vous en avez l'habitude tous les dimanches, le but Ligue 1. T'es avec qui Benoît cet après-midi, Kevin, hein?
Avec Kevin Diaz. Évidemment.
Et puis donc ces matchs de Ligue 1. Et puis le rugby, les Anglais en Italie, on suivra ça à partir de 16h un petit
au
peu.
Au Stadio Olimpico à 16h, ouais, avec Jean-François Paturo, effectivement. 4 belles affiches de Ligue 1 à venir, notamment ce derby qui est assez chaud entre Clermont et Saint-Etienne.
Le très haut niveau retrouvé en Auvergne, nous a dit tout à l'heure Damien Tardieu. 14h53. Ouais, il a osé. Passez une bonne après-midi sur RMC. Ciao.
RMC Intégral Foot.